France Inter. Le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est députée des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans une charge assez virulente. Un des soutiens de poids d'Emmanuel Macron, Dominique de Villepin, a estimé hier à votre place, à ce micro, qu'après un début de quinquennat positif, le président avait perdu le contact avec les Français. Il l'appelle, je cite, à changer sa stratégie, son logiciel, sa posture, en proposant notamment un projet social qui fait défaut. Faux, selon lui. Vous lui répondez quoi, Dominique de Villepin ?
Je réponds que le vrai projet social, c'est ce qu'on fait en matière d'éducation. Quand on dédouble les classes, par exemple, dans les zones prioritaires, je pense que c'est ce qu'on fait en matière de travail, quand on dit qu'on met l'accent sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Tout dépend ce qu'on entend par politique sociale. Est-ce qu'on a eu un débat sur la question des aides sociales ? Si la politique sociale, c'est uniquement la question des aides sociales et de la revalorisation potentielle.
Je pense pas que c'est ce que disait Dominique de Villepin, parce qu'il a pas parlé des minima sociaux et des aides sociales. C'était une pensée globale pour dire. Il a dit clairement, je le cite, le président est arrivé avec le logiciel des années 90-2000, il faut réformer à tout prix. C'était l'optique de l'ancien monde.
Moi, je suis pas forcément fan du vocabulaire ancien ou nouveau monde. Donc moi, je me revendique pas de ça. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il ait été élu avec un logiciel daté. J'ai l'impression, au contraire, que ce qu'il incarne permet d'arriver à avoir des avancées qui sont majeures. Parce que justement, on a réussi à faire que des mots qui étaient comme des mots de tabou, en disant par exemple qu'on était des libéraux, finalement, est aujourd'hui devenu quelque chose qui peut être positif. Parce que on le raccroche systématiquement à des logiques d'émancipation, à la question du travail. Je pense que c'est ça qu'on arrive à mener. Après, soit on fait comme ce qui a été fait avant, c'est-à-dire que dès qu'on a un décrochage de telle catégorie professionnelle, par exemple, ou de telle catégorie d'électorat dans l'opinion, on change de cap et on navigue à vue, ou alors on garde le cap sur lequel on a été élu. Et je pense que le fait d'avoir navigué à vue beaucoup ces dernières années n'a pas aidé au fait que les Français étaient en confiance.
Vous parlez des décrochages, moi en général je ne cite quasiment jamais les sondages, mais c'est vrai qu'il y a un sondage assez édifiant où la cote de popularité du président de la République baisse, mais si on regarde dans le détail, c'est le sondage Odoxa pour France Inter publié hier, si on regarde dans le détail, il prend 5 points chez les Républicains, donc il prend 5 points à droite et il perd 24 points chez les sympathisants de gauche. C'est pas quelque chose qui vous interpelle quand même ?
Non, c'est pas quelque chose qui m'interpelle, parce que peut-être que dans 6 mois, quand on entamera d'autres réformes, eh bien, on aura d'autres types de sondages. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que systématiquement, vous avez vocation à rééquilibrer en fonction d'une base électorale. Et moi, je pense que c'est ça qui a perdu la France, et c'est ça qui a fait qu'on n'a jamais réussi à réformer dans ce pays. Si au contraire, on se dit, voilà, on a un cap sur lequel on a été élu, et on n'en déviera pas, alors au moins, on apporte une réponse qui est celle de la constance, et celle de la cohérence par rapport au projet sur lequel on a été élu.
Sur la cohérence et la constance, autre critique de Dominique de Villepin, il dit qu'Emmanuel Macron aurait dû accueillir l'Aquarius au nom de nos valeurs et aller l'expliquer aux Français qu'il aurait compris. On ne gouverne pas la France en fonction des sondages d'opinion, a-t-il dit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est trop sensible aux sondages d'opinion ? 65% des Français ne veulent pas accueillir l'Aquarius, donc on ne le fait pas.
Justement non, et c'est tout ce que je vous disais juste avant, j'ai pas du tout l'impression qu'on gouverne au regard des sondages. Déjà, s'il avait regardé vraiment les sondages, il aurait même pas été candidat à l'élection présidentielle. Donc je pense que ça apporte une réponse assez claire.
Sur l'Aquarius, il fallait l'accueillir au nom de nos valeurs, dit Dominique de Villepin.
Mais sur l'Aquarius, à un moment, je pense qu'il faut aussi rappeler ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des États qui, eux, s'exonèrent complètement des responsabilités qui sont les leurs. Donc soit on considère que finalement l'Italie, elle est hors du droit commun de l'Union Européenne, que Malte, c'est pareil, qu'on n'a plus rien à partager ensemble. Et que dans ces cas-là, on accepte que chacun fasse comme il en a envie et sorte finalement de la règle commune de l'Union européenne. Mais dans ces cas-là, c'est la fin de l'Union européenne aussi. Soit, à un moment, chacun prend ses responsabilités. Et c'est ce qu'on a fait. À partir du moment où l'Espagne a dit « on accueille l'Aquarius », la France a dit « très bien, on sera aux côtés de l'Espagne et on accueillera les migrants ». Avec eux, et on étudiera avec eux leur situation. Et si certains ont vocation à rester, alors ils pourront aussi rester en France.
4 associations, dont MSF et Amnesty, demandent à être reçues par Emmanuel Macron après ses critiques de l'ONG Lifeline, qu'il a accusé de faire le jeu des passeurs et d'être d'un cynisme terrible. Les associations se disent consternées par ces mots d'Emmanuel Macron, qui, je cite, marquent une étape supplémentaire dans le cynisme et l'hypocrisie de la politique migratoire française.
Moi, je vois aucun cynisme ou hypocrisie, je vois au contraire de la clarté. Soit, c'est beaucoup plus facile soit d'être démagogue, soit d'être populiste quand on parle d'immigration. C'est peut-être plus rentable, j'allais dire, à court terme, mais ça apporte aucune solution. La France, c'est le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile l'an dernier, devant l'Italie d'ailleurs. Donc je pense que la France, elle prend sa part et elle doit prendre sa part et on le fait. Et on a eu, moi,
Ils pensent vraiment, pardonnez-moi, ils pensent vraiment que les humanitaires, que ceux qui aident les migrants en mer sont cyniques et font le jeu des passeurs. Est-ce que c'est sa conviction propre, le président de la République ?
Il a caractérisé une situation particulière où on sait qu'on a une ONG notamment qui s'est exonérée de toutes les responsabilités qui doivent être les siennes. On ne peut pas accepter ça non plus. C'est-à-dire que, évidemment, que celles et ceux qui aident les migrants en mer ont une vocation humanitaire et doivent être salués et leur travail doit être salué et on ne peut pas le mettre au même plan que les passeurs. Par contre, ceux qui se dédouanent de toute responsabilité parce qu'ils considèrent qu'ils font un travail que l'on devrait faire peut-être nous, ça, ce n'est pas possible. Comment on peut fonctionner quand on coupe un signal en mer, quand on ne sait plus vous localiser, quand on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, vont se passer. C'est ça qu'il a dénoncé. Et oui, à un moment, il faut être très clair sur la responsabilité de chacun d'entre nous, sur la responsabilité des États individuellement, sur la responsabilité de l'Union européenne et sur la responsabilité citoyenne aussi qui est la nôtre.
Et il faut qu'ils reçoivent MSF et Amnesty ?
Ils ont été déjà reçus de manière régulière par le ministre de l'Intérieur. Le président de la République les avait reçus, le Premier ministre aussi. Je ne sais pas s'il a à répondre à chaque injonction qui lui est faite.
Sommet européen capital aujourd'hui, Aurore Berger. Emmanuel Macron espère faire inscrire la mention de la création d'un budget de l'eurozone dans les conclusions de ce sommet. Mais d'ores et déjà, les dirigeants néerlandais, portugais, belges, autrichiens et les autres disent qu'ils n'en veulent pas de ce budget de la zone euro. Comment imposer une idée quand on n'a qu'un seul partenaire et encore un partenaire flagellant, à savoir Angela Merkel ?
Moi, je pense qu'on a un dysfonctionnement aujourd'hui de l'Union européenne qui est évident, mais qu'il ne faut pas laisser de la critique de l'Union européenne uniquement aux eurosceptiques. Et c'est, à mon avis, un enjeu majeur qu'on aura au moment des élections européennes. Il faut qu'on assume une critique de l'Union européenne et des dysfonctionnements. Et il faut qu'on assume aussi d'avoir un avenir commun ensemble. Et cet avenir commun, il passe aussi par le renforcement de l'Union européenne. Et son renforcement, c'est des capacités budgétaires communes qu'on peut développer ensemble.
Ça, c'est un constat, mais quand les autres ne veulent pas le faire, vous allez comment
vous
allez les
forcer ? Soit vous renoncez en amont d'un conseil, soit vous dites que vous êtes en capacité de pouvoir les convaincre. Et je préfère avoir un président de la République qui dit qu'il va essayer d'aller les convaincre et qui ne va pas renoncer a priori. On a aujourd'hui des déclarations au sein de l'Union européenne qui sont extrêmement inquiétantes, que ce soit la Hongrie, que ce soit la Pologne, que ce soit le ministre de l'Intérieur autrichien qui reparle de la volonté de reformer l'axe. C'est extrêmement dangereux. Donc encore une fois, soit on se dit qu'on a des choses à partager ensemble et il faut aussi, dans ces cas-là, qu'on se dote de moyens pour les partager. Et c'est l'enjeu du budget européen. Et Angela Merkel y est favorable, l'Espagne est favorable. Donc on a aussi des alliés qui peuvent nous aider sur ce sujet-là.
Angela
soit
Merkel
on abandonne
est favorable
ambition.
Du bout des lèvres, vous le savez. Enfin, je veux dire, c'est
oui, mais
fait.
Elle a le courage de dire qu'elle y est favorable, alors qu'elle est dans une coalition qui est difficile pour elle, et on le sait. Et c'est un partenaire qui est essentiel pour nous.
Un grand projet revu à la baisse, titre Le Figaro ce matin. Le grand projet revu à la baisse, c'est le service universel présenté hier. Il sera donc effectué sur deux périodes de 15 jours pendant les vacances scolaires. L'opposition dénonce pêle-mêle un gadget pas financé. Où logeront les adolescents ? Qui les encadrera ? Parce que ce ne sera pas l'armée. Comment faire de la mixité sociale en 15 jours ? Bref, expliquez-nous pourquoi ces critiques sont fausses et pourquoi le projet n'est pas à la baisse, est un projet à la hauteur.
C'est un projet qui est nécessaire. C'est un projet qui est nécessaire parce que ça permet justement, en effet, de se sentir appartenir à une même entité, à un même État, une même nation, vous le dites comme vous voulez. Et je pense que ça fait du bien. Ceux qui critiquent aujourd'hui étaient les mêmes qui critiquaient hier pendant la campagne présidentielle et considéraient que ça ne servait à rien de le faire sur une période plus longue. Aujourd'hui, ils considèrent que ça ne sert à nouveau à rien de le faire sur une période plus courte. Moi, je considère que c'est utile et que ça apporte une première réponse. Ben, ça veut dire que pendant le même temps, au même moment, vous avez des jeunes qui viennent de tous horizons et qui vont partager quelque chose en commun. C'est la continuité aussi de ce qu'on fait notamment à l'école. C'est tous les enjeux de mixité sociale qu'on a.
En 15 jours, vous pensez qu'on apprend à connaître l'autre ?
Je pense qu'en 15 jours, on arrive à faire des choses ensemble qu'on ne fera pas si de toute façon on n'a aucun projet à partager. Et encore une fois, ceux qui critiquent étaient les premiers qui disaient que de toute façon, même en 2 mois, ça n'était pas utile et pas efficace. Moi, je pense que apprendre pourquoi on est une nation ensemble et le faire 2 fois en 15 jours, on peut considérer que c'est peut-être pas suffisant. Moi, je considère que c'est un premier pas qui est utile.
Aurore Berger était notre invitée. Merci à vous. Belle journée. Restez avec nous surtout, parce que je crois qu'il y en a deux qui veulent vous parler.
Merci Léa.